Eh bien, la dernière session de la journée. Probablement vous êtes encore plus fatigué que je le suis, et je ne vous blâme pas du tout. Nous arrivons maintenant à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Dans ce chapitre, comme dans chapitre 9, comme nous avons déjà vu, il y a un grand nombre d'allusions. Dans chapitre 9, quand même, il n'y avait pas de citations, seulement un grand nombre d'allusions. Ici, dans ce chapitre, un grand nombre d'allusions, mais quelques citations aussi. Et nous allons suivre l'argumentation assez rapidement ce soir pour noter bien comment notre auteur traite l'histoire. Or, la foi. L'explication première, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. L'assurance des choses qu'on espère. Il faut dire quelque chose que sans doute vous connaissez déjà. En anglais et en français, l'espérance a toujours un élément de doute. Quand nous disons « oui, je l'espère », ça veut dire « je l'espère, mais je suis loin d'être certain ». Mais en grec, l'espérance a tout simplement la notion d'attente. Et si cette attente est certaine ou non, ça dépend du contexte. Donc, on peut parler d'une espérance certaine. En anglais, ça ne fait pas du bon sens. En français, ça ne fait pas du bon sens. Une espérance certaine, est-ce qu'on dit oxymoron? Oxymoron? C'est-à-dire une expression... Oui? Oxymoron, une expression qui se contredit internement. Une espérance certaine, c'est un oxymoron. Mais en grec, parce que l'idée de l'espérance est seulement une attente, soit une attente certaine, une attente non certaine, certaine, ça dépend du contexte. Ici, dans ce contexte, sans doute, c'est une espérance certaine, on l'attend, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est Dieu qui va accomplir sa parole, et c'est la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire... À travers ce chapitre, Dieu donne bien des promesses à Abraham, Joseph, Moïse, les autres. Et ces hommes ont exercé la foi parce qu'ils attendaient ce que Dieu avait promis. Il y a quelques autres exemples de foi dans ce chapitre, mais l'emphase à travers le chapitre, c'est la foi qui persévère. La foi qui attend, parce que les choses promises n'ont pas été encore données. Donc, il faut croire à Dieu, il faut accepter sa parole, il faut avoir la foi. Et voilà aussi notre assurance de l'espérance. Dans ce sens, donc, c'est la démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Pas tout simplement les choses éternelles, mais les choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est-à-dire les choses dans l'avenir. Nous avons vu à travers cet épître la trajectoire de l'histoire. Et donc, il y avait des implications, des significations du tabernacle qui n'étaient pas encore arrivées dans le temps de Moïse, dans le temps de David, avec le temple. Et il y avait des implications du système de sacrificateurs qui n'étaient pas encore arrivées. Il fallait attendre. Ce n'est pas parce que ces choses étaient complètement spirituelles ou éternelles ou non matérielles, mais... Les personnes de l'Ancien Testament ne pouvaient voir ces choses parce que ces choses n'étaient pas encore arrivées. Donc, ça prenait la foi. La foi. Maintenant, il y a quelques exemples ici où ce n'est pas la persévérance qui est soulignée, seulement qu'on mette confiance en Dieu. On accepte sa parole. On marche avec lui. On accepte sa parole, on vit dans cette foi. Mais la grande majorité de ces instances, de ces cas, de ces exemples, touche surtout la question de persévérance. Et c'est pas mal clair pourquoi l'auteur souligne cet aspect de la foi. Après tout, son point pastoral à maintes reprises, c'est de persévérer dans la foi de Jésus et de ne pas retourner à l'ancienne alliance. Et même il y a des avertissements, si nous laissons à côté cette nouvelle alliance, nous sommes en grand danger. Donc déjà dans chapitre 6 et maintenant dans chapitre 10, des exhortations de la fermeté dans la foi, chapitre 10, verset 19 à la fin, et même avec des avertissements sévères dans verset 26 à verset 31. Donc, d'une façon plus positive, ce chapitre est donné à l'exhortation de la foi avec des exemples vétérotestamentaires de l'ancienne alliance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. Eh bien, le premier exemple, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas une question d'attendre quelque chose dans l'avenir, c'est plutôt une manière de voir, d'accepter les faits qui ont eu lieu dans le passé, et en ce cas, quelque chose qui est arrivé dans le monde matériel, la création elle-même, de Dieu lui-même qui est transcendant. Il ne fait pas lui-même partie de ce monde terrestre ou de cet univers physique ou matériel. Et on ne peut pas accepter cela seulement par l'observation. Ce n'est pas comme si quelqu'un était là pour voir l'acte de Dieu qui a créé le monde. Même si quelqu'un avait pu être là, comment est-ce qu'il aurait pu voir avec les yeux de la chair la puissance de Dieu, l'acte de Dieu qui crée le monde, qui crée l'univers? Ça aussi, ça prend, franchement, la foi. Maintenant, vous allez vous souvenir du fait qu'il y a quoi, 3 jours maintenant, que j'ai mentionné que dans le Nouveau Testament, la foi n'a jamais la signification choix personnel religieuse, qui est le sens de foi aujourd'hui dans notre société, le sens dominant. Choix personnel religieuse. Dans ce sens, donc, la foi, dans le sens contemporain, n'a pas de lien avec les faits d'histoire, les faits des actes des yeux. C'est tout simplement une choix personnelle religieuse. Donc, ce n'est pas disputable. Vous avez votre foi, j'ai la mienne. Mais même ici, j'ai mentionné l'autre jour que jamais dans le Nouveau Testament le mot foi a cette signification. Et s'y inclut ici. Pour l'auteur, ce n'est pas comme si quelques-uns croient à la création, d'autres personnes n'y croient pas, ça ne fait rien. C'est une question de foi, c'est une choix religieuse personnelle. Hein? Il y a des personnes qui croient à la création, d'autres personnes qui n'y croient pas, et pourvu que vous êtes bénis, ça ne fait rien. Non, non, la création par Dieu, c'est la chose donnée, c'est la chose comprise, c'est la chose révélée. Mais pour l'accepter comme le fait que c'est, ça prend quand même la foi. Pas certainement l'observation, ni dans ce cas le témoin de l'histoire, comme les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà un fait d'histoire et nous avons accès à ce fait par les témoins. Mais dans le cas de la création, où sont les témoins après tout? Ça prend donc la foi. Pas tout simplement une choix personnelle, mais une manière de perception les réalités. Sans doute à travers le Nouveau Testament, un don de Dieu, mais quand même une perception de la réalité, des faits que Dieu lui-même a créé l'univers. Ça prend la foi. Dans ce cas, il n'y a pas une question de persévérance. C'est plutôt tout simplement une perception de faits que Dieu a fait en réalité, que nous ne pouvons pas trouver nous-mêmes ou découvrir nous-mêmes ou prouver nous-mêmes par accès aux témoins ou de choses semblables. Et ensuite, au lieu de commencer avec versets 4 et 5, lisons aussi verset 6, parce qu'encore une fois, il y a une méditation sur les implications de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est un verset intéressant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi accepte ce que Dieu a fait et ce qu'il dit et démontre notre dépendance de lui. Nous ne sommes pas ses collègues. Nous ne sommes pas ses juges. Ça, c'est la faute avec la vision du monde moderniste. Je suis indépendant, comme nous avons vu il y a 3 jours. Nous sommes indépendants. Et donc, c'est nous qui exerçons le jugement. Dieu existe-t-il ou non? Et ensuite, nous créons nos preuves pour démontrer que Dieu existe. Supposons qu'il n'y avait jamais eu lieu une chute. Supposons que Dieu avait créé le monde et le monde était encore parfait, sans péché nulle part. Est-ce qu'il y aurait des êtres humains qui écriraient des livres pour prouver l'existence de Dieu? C'est pas croyable, hein? Donc, nous mettre dans une position où nous autres, nous pouvons prouver ou pas prouver, essayer de prouver, essayer de ne pas prouver, essayer de déprouver, d'éliminer la possibilité de l'existence de Dieu, du point de vue de Dieu, c'est ridicule. Même c'est blasphémeux. Mais ce que Dieu exige, c'est un esprit de dépendance de lui, d'accepter ce qu'il a fait et ce qu'il dit. La vérité, voici la foi. Mais c'est difficile d'expliquer cela à notre monde contemporain, parce que le mot foi a toujours cette connotation de choix religieuse, personnel, et dans la suite du mouvement moderniste, il faut prouver Dieu avant d'être certain qu'on peut reposer notre confiance en lui. Mais ça revient à la même chose. C'est moi qui ai Dieu, qui juge Dieu. Donc, dans Jean chapitre 6, quand le monde commence à se plaindre, Jésus dit en effet que c'est dangereux parce que ces personnes veulent se mettre dans la place des juges. Pareillement avec Nicodème. Nicodème s'approche de Jésus et il dit en effet, « Eh bien, nous croyons, nous autres, que vous êtes un homme de Dieu, car personne ne pourrait pas faire de tels miracles si Dieu n'était pas avec lui. » Donc, il se met dans la place où il peut évaluer Jésus. Et Jésus répond, « en vérité, je te le dis, tu ne vois rien, tu ne vois pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Parce que tu ne vois pas qu'on a besoin d'une nouvelle nature, tu n'as jamais été né de nouveau. Le pauvre Nicodème veut se mettre dans la place d'évaluer le Christ. Et en réalité, nous sommes en bonne relation avec lui, si c'est lui qui nous évalue. Et si nous avons confiance en lui. Ça, c'est le point ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et maintenant, il y a bien des personnes aujourd'hui qui trouvent ça un peu difficile. Il récompense ceux qui le cherchent. Ça détruit la doctrine de la grâce, n'est-ce pas? Non, non, il y a bien des passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la récompense de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que donc c'est une question de mérite? Si nous mettons suffisamment notre confiance en lui, là, il va nous récompenser? Non, ça, ce n'est pas exactement le point. Mais nous croyons que Dieu existe et qu'il est juste. Ce n'est pas tout simplement un pouvoir. C'est le Dieu de justice. Donc, nous pouvons avoir confiance en lui, qu'il récompense ceux qui le cherchent. L'auteur C.S. Lewis a donné une bonne illustration de la notion de récompense dans le Nouveau Testament. Imaginez, il dit, deux hommes. Le premier veut trouver une femme. Il trouve une prostituée. Il paye son monnaie. Il a sa récompense. L'autre trouve une jeune femme, puis il la poursuit avec honneur, humilité, fidélité, vérité, commence à connaître sa famille. Après un bon bout de temps, il lui propose mariage. Il gagne la permission, la bénédiction de toute la famille. Et ensuite, il se marie. Il a sa récompense. Quelle est la différence? Les deux ont la récompense. Lewis suggère que dans le premier cas, la récompense est tellement mal mesurée avec le paiement que c'est odieux. C'est terrible. C'est une forme d'abus. Abus? Mais dans le deuxième cas, c'est tout simplement la culmination, la consommation d'une relation. Et les récompenses de Dieu sont comme cela. Ce n'est pas comme si nous avons fait un paiement de quelques bonnes œuvres, et ensuite nous gagnons l'éternité. C'est plutôt la consommation d'une relation qu'en fin de compte, que Dieu lui-même a créé, a pourvu. Mais cela présuppose que nous, qui recevons cette récompense, nous croyons que Dieu est le Dieu qui est juste, qui récompense le bien. Et à cause de sa justice et sa miséricorde et sa grâce, nous mettons notre confiance en lui, nous acceptons le don de salut donné par sa main, achevé par son Fils, nous entrons dans une relation avec le Dieu créateur et rédempteur. Et un jour, nous recevons une, on dit récompense, oui, certainement, parce que ce Dieu est tellement généreux qu'il nous mène vers la consommation. Eh bien, maintenant, les exemples. Ceux qui se trouvaient avant le déluge, versets 4, 5 et 7. Le premier était tué, le deuxième était enlevé, et le troisième a vécu à travers le déluge, le désastre qui anticipe le jugement final. Abel. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Genèse chapitre 4, verset 3 à 10. Notez bien. Ce passage ne fait pas une distinction entre le sacrifice d'animaux et le sacrifice des légumes. Après tout, même sous la loi, des siècles plus tard, même sous la loi, il y avait une place pour des sacrifices des légumes. Ce n'est pas que chaque sacrifice non sanglant est nécessairement méchant. Et la distinction ici, c'est entre la foi d'Abel et le manque de foi de Caïn. Mais non, la foi n'est pas mentionnée d'une forme exprès dans Genèse chapitre 4, mais c'est démontré dans l'histoire. Dans un cas, Abel offre son sacrifice devant Dieu et Caïn offre son sacrifice devant Dieu, mais c'est bien évident dans la suite que Caïn n'était pas acceptable parce que son cœur n'était pas juste avec Dieu, il ne se fiait vraiment pas en lui, il voulait tout simplement gagner quelque chose de Dieu. Donc ce n'était pas la foi, c'était une forme de religion où on offre quelque chose à Dieu pour gagner quelque chose de Dieu, une espèce de paiement, ce n'est pas la foi ça. Enoch, chapitre 5, 21 à 24. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Il plaisait à Dieu. Dans l'hébreu, c'est ça que dit le grec, la Septante. Dans l'hébreu, il est écrit « il marchait avec Dieu ». Mais c'est tout simplement une autre manière en ce cas de dire la même chose, n'est-ce pas? Un autre idiome. « Il plaisait à Dieu ». Mais encore, la foi n'est pas mentionnée. Mais ce qui est présupposé, c'est que son obéissance, sa conduite envers Dieu, son expérience avec Dieu était le fruit de sa foi. Il avait confiance en Dieu, il se soumettait à Dieu. C'était Dieu qu'il voulait, c'était Dieu à qui il voulait se soumettre, c'est lui qu'il voulait plaire. Oui, c'était à lui qu'il voulait plaire, oui. Ensuite, Noé, verset 7, Genèse 6, 13 à 8, 22. Lui aussi, Genèse 6, 9, dit, a marché avec Dieu. Même expression. Mais dans ce cas, malgré le fait qu'il a marché avec Dieu, il n'était pas enlevé. Il était préservé à travers le déluge. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais dans ce cas, la foi est encore plus évidente, n'est-ce pas? Il a cru la parole de Dieu. On ne sait pas comment cette parole lui était parvenue, mais il savait que c'était la parole de Dieu. Il croyait à cette parole et il s'est donné à la construction de cette arche à travers des décennies et des décennies et des décennies, malgré le fait que sans doute tout le monde autour de lui pensait qu'il était fou, sans doute. Voilà la persévérance. Parce qu'il croyait en Dieu. Il avait la foi. Et donc on l'appelle juste. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Maintenant la période des patriarches. Verset 8 à verset 22. Il y a cinq individus qui sont mentionnés. Premièrement, Abraham, verset 8 à verset 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint à s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Eh bien, dans ce cas, sa foi, comme la foi de Noé, avait comme résultat l'obéissance. L'obéissance persévérante à travers des décennies et des décennies et des décennies. Premièrement, dans son obéissance de suivre l'Éternel et sa direction pour abandonner la ville d'Ur et aller dans le pays promis. Quand nous lisons, il attendait la cité qui a de solides fondations, nous pourrions nous demander, eh bien, quel texte y a-t-il dans l'Ancien Testament pour démontrer ce point-là, hein? Il croyait que Dieu était pour donner à sa semence tout le pays, mais la cité? Quelle mention y a-t-il de cité? Je pense qu'assez souvent dans le Nouveau Testament, par cité, on ne doit pas penser de Genève, Paris, ou Londres, une telle cité. Cité veut signaler presque, encore ce mot avec des connotations que je n'aime pas, mais la civilisation. Les centres d'êtres humains stables, pas des nomades, des personnes mobiles, mais stables, avec les arts et la musique et les temples et les louanges et la formation et... Cité dans le Nouveau Testament ne veut pas signaler une ville ou un village qui a au moins 100 000 personnes ou au moins 1 million de personnes. Ça veut dire tout simplement le centre de civilisation. La seule raison pourquoi je n'aime pas cette expression, c'est que civilisation a des connotations un peu égoïstes des fois, n'est-ce pas? Mais quand même, ça c'est l'idée. Et il attendait donc l'avenir où il ne serait pas tout simplement mobile, sous tente. Tout le pays était pour lui et pour sa descendance. Et il croyait un jour que son peuple serait stable devant Dieu en sa présence. Et même, il croyait à la promesse divine qu'en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Est-ce qu'il a tout compris l'Évangile? Non. Est-ce qu'il a tout compris la suite de la trajectoire historique? Non. Mais il savait ce que Dieu avait promis, que ça commençait avec ce pays stable, où lui-même, il demeurait seulement dans les tentes, où il fallait acheter même un tombeau pour Sarah, parce qu'il ne possédait rien de lui-même. Il voulait avoir quelque chose de stable, basé sur les promesses de Dieu. Oui, il avait une telle foi. Versets 11 et 12. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quand nous lisons Genèse chapitre 18, versets 10 à 15, on ne dirait pas que Sarah avait grande foi. Elle rit dans sa tente. Mais quand même, n'est-ce pas vrai que nous pouvons trouver d'autres exemples dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, où il y a des personnes, des personnes qui sont fidèles pour un bon bout de temps, mais ici et là, ils manquent le coup, tombent dans le doute. Un Pierre, peut-être. Après Gethsémané. Un Thomas. Un David. Il me semble que ce que l'auteur dit ici, en effet, c'est qu'à travers les années, Sarah restait à côté d'Abraham, partageait sa foi. Elle croit en Dieu. Mais à un certain point, quand il y avait cette annonce, s'est mise à rire. Et il ne faut pas être trop impatient ou trop condescending, trop condescendant envers elle à cet égard. Il me semble que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décide de souligner sa fidélité à travers les années pour ne pas mettre tout l'emphase sur cet instant qu'on trouve dans Genèse chapitre 18. Ce n'est pas comme si elle était contre Abraham à travers les années. Encore Abraham et Sarah, dans verset 13 à verset 19, il y a des variations textuelles que je ne vais pas mentionner ici, ça ne touche pas le point. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et l'expression vient de l'Ancien Testament. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Maintenant, est-ce qu'Abraham attendait lui-même, clairement, une patrie céleste? Ou est-ce que la phrase « c'est-à-dire une céleste » est ajoutée, en effet, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour expliquer ce qui devait arriver à Abraham, même si lui-même ne savait pas toutes les implications dans l'avenir? Il voulait avoir une patrie. Il croyait que Dieu donnerait à sa famille, à sa descendance, une patrie, que ça vient de Dieu. Dans ce sens, c'est céleste en tout cas. Et ils ne sont pas retournés à leur patrie, parmi les Chaldéens, parce qu'ils croyaient encore en Dieu. Ils avaient la foi. Donc, ils attendaient une autre patrie, une patrie meilleure. Et l'auteur ajoute, oui, meilleure, en fin de compte. Céleste. Vous voyez? Ça, c'est le point. Et Dieu leur a préparé une cité. Encore une fois, pour nous qui ont été élevés en pleine campagne, peut-être nous sommes cultivateurs, ou franchement, nous n'aimons pas les villes. Ce n'est pas comme s'il faut vivre dans le Nouveau Jérusalem et haïr tout cela parce que nous autres, nous aimons la campagne. Hein? Ça, ce n'est pas le point. Le point, c'est que le Nouveau Jérusalem, quand on parle l'Apocalypse, en fin de compte, c'est une ville, oui, qui signifie le centre de l'apparence de Dieu lui-même. L'ancien Jérusalem était la place du roi, était la place du temple, était la place de la gloire, et c'était une place sociale. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux villes. Babylone, qui n'est pas l'ancienne ville de Babylone, c'est seulement un symbole pour tout ce qui est méchant dans la civilisation, et Jérusalem, qui n'est pas la ville de Jérusalem terrestre, mais la ville de Dieu, descendue des cieux, le centre de toute civilisation humaine, spirituelle, divine, sociale, riche en louanges. Nouveau Jérusalem. Dans ce sens, ils avaient une vision de la cité de Dieu. Quand l'Empire romain tombait ou était à veille de tomber, et les païens disaient assez souvent que c'était la faute des chrétiens, parce que les dieux et les déesses des païens étaient tellement fâchés contre le dieu du christianisme que ce n'était que la colère de ces dieux. Et c'était la faiblesse humaine qui a été soulignée par les chrétiens à travers l'Empire. Saint Augustin a écrit son livre « Cité de Dieu ». Puis il trace les deux cités de Genèse 3 jusqu'à la fin de la Bible. Cité de Dieu, cité des hommes. De même façon qu'il y a deux cités dans l'Apocalypse, il y a deux femmes dans l'Apocalypse. La femme qui se marie avec l'agneau, l'Église. Et la femme qui est assise sur le monstre dans Chapitre 17. Des choix partout. Est-ce qu'on fait partie de la cité de Dieu ou de la cité du diable? Quelle femme est-ce que nous poursuivons? Pareillement, dans le livre des Proverbes, il y a deux femmes. La sagesse et la folie. Donc, il y a ces grandes typologies qui nous exigent une décision, une direction. Et le texte insiste en effet qu'Abraham a pris la décision pour la cité de Dieu dans ce sens. Mais présupposer qu'il avait un sens moderne de cité, ou qu'il connaissait déjà le contenu d'Apocalypse chapitre 21 et 22, c'est exiger un peu trop. Mais il avait cette vision de l'avenir, la côté de Dieu. Donc, il a vécu en foi. L'épreuve la plus sévère, sans doute, c'était l'offrande d'Isaac, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. » Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là un symbole. Oui, certes. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de passage dans l'Ancien Testament qui dit d'une forme exprès que Abraham comptait que Dieu voulait véritablement ressusciter son fils Isaac. Mais il me semble que c'est une implication du texte quand même. S'il croit véritablement à la promesse de Dieu, mais il croit aussi que Dieu l'a commandé de le tuer. Quelle autre position y a-t-il à prendre, hein? Il me semble que c'est seulement une implication du texte. C'est tout. Mais encore, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et il l'a reçu de nouveau. C'est pourquoi son fils lui fut rendu et il y a là un symbole, encore c'est le mot que nous avons découvert cet après-midi, une parabole. Nous l'appellerons aujourd'hui sans doute une typologie, un type. Et ensuite, Isaac, verset 20, Il y a trois personnes avec leur dernier mot. Premièrement, Isaac. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Deuxièmement, c'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Et troisièmement, c'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Deux, trois remarques. Premièrement, dans chaque cas, naturellement, c'est à la fin de leur vie. Les derniers mots, c'est tout à fait naturel. Mais quand même, malgré le fait que c'est à la fin de leur vie, ils donnent leurs derniers mots à cause de leur foi. Isaac et Jacob savaient que la bénédiction de Dieu devait continuer. Après tout, la promesse avait été donnée à Abraham. Il croyait encore en cette promesse. Et Joseph, il était tellement vaincu que la promesse devait retourner le peuple au pays promis qu'il a fait ses arrangements pour que ses os soient transportés. Voilà la foi. Troisième détail. Dans ce cas, verset 21, la Septante diverge pas mal de l'hébreu, et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Vous pouvez lire chapitre 47 de Genèse, verset 29 et suivant. Ça ne fait aucune différence du point de vue de théologie. Aucune différence du tout. Mais quand même, les détails sont pas mal différents. Quoi faire avec cela? Encore une fois, il y a un article assez long et détaillé qui traite cette question en ce cas. C'est écrit par Moïse Silva, qui était autrefois professeur du Nouveau Testament à Westminster Seminary. C'est un Cuban, et il écrit souvent en espagnol, mais dans ce cas, il a écrit en anglais. Ensuite, il a enseigné à Gordon Conwell Divinity School, et maintenant, il a pris sa retraite. C'est un essai dans le livre « Scripture and Truth » que j'ai rédigé avec John Woodbridge il y a une vingtaine d'années. Silva fait dans son article, il examine les deux textes, puis il dit comment comprendre cela. Quelles sont les possibilités? Il les liste. Il en donne, j'oublie combien, une quinzaine à peu près? Toute une liste de possibilités comment comprendre ces passages. Par exemple, ça se peut que la Septante a raison ici. Après tout, de temps en temps, la Septante préserve le texte primaire, le texte original. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive. C'était démontré quand même de temps en temps quand le texte de la Septante préservait une certaine forme de mots avant 1948. Et après 1948 et les découvertes de la mer morte, on a découvert des textes en hébreu qui avaient exactement la même signification que la Septante et qui se différait de l'hébreu que nous avons dans la tradition massorétique. Hein? Donc, c'est possible que c'est la Septante qui a raison ici. C'est une possibilité. Il liste une quinzaine de possibilités. Et ensuite, il liste les raisons possibles pour un chrétien qui croit véritablement que c'est la parole de Dieu. Et à la fin, il dit, et franchement, je ne peux pas décider ce qu'il faut adopter ici parce qu'il n'y a pas assez d'évidence. Donc, il y a aussi un peu d'humilité. Des fois, c'est bien de connaître les possibilités et admettre qu'on n'a pas une réponse claire et nette dans chaque cas. Et il y a une demi-douzaine de passages assez difficiles dans l'Épître aux Hébreux où l'auteur suit la Septante et il n'y a pas de texte en hébreu qui a la même signification. Dans aucun cas, ça touche les questions de théologie profonde. Mais dans chaque cas, c'est difficile de savoir exactement quelle conclusion il faut en tirer. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. Ce n'est pas suffisamment satisfaisant? Eh bien, et vous devez écrire votre propre article là-dessus et m'instruire. Et ensuite, l'Exode 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché, c'est-à-dire par ses parents. Ce n'est pas la foi de Moïse qui est en vue. C'est la foi de ses parents. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Wow! Encore une fois, le texte de l'Ancien Testament insiste qu'ils ont eu peur du roi, et c'est pour cette raison qu'ils l'ont caché. Une contradiction? Non, non, non. Dans un sens, ils ont eu peur. Dans un autre sens, ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils craignaient le roi. Donc, il fallait cacher l'enfant. Parce qu'ils ne craignaient pas le roi, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas donné leurs enfants au roi pour être tués. Dans ce sens, ils avaient la foi. Ils craignaient Dieu plus qu'ils craignaient le roi. Donc, si nous voulons trouver tout simplement des expressions parallèles, il y a une contradiction. Si nous voulons comprendre les circonstances, c'est bien évident que dans un sens, ils ont craint le roi. Dans un autre sens, c'était une famille courageuse qui craignait Dieu davantage. Dans ce sens, ils n'ont pas craint le roi. Qui suggère encore une fois que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est un homme qui écoute les textes. Il ne les cite pas tout simplement d'un sens simple, des mots qu'il ne comprend pas. Hein? Nous avons vu à travers cette étude qu'il comprend, il pense. Il essaie de comprendre le texte. Et dans ce sens, s'il introduit ainsi une espèce de contradiction formelle, ça ne lui trouble pas. Verset 24, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estima en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. En ce cas, le texte nous dit, Exode chapitre 2, verset 14, qu'il a fui à cause de sa crainte. À mon avis, quand même, ici dans verset 27, le texte fait référence pas au premier départ de Moïse, mais le départ de Moïse à l'Exode. C'est-à-dire, à ce point, il regarde plus loin, vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, c'est-à-dire au temps de l'Exode. Et dans ce cas, il n'était pas peureux. Il crie à Dieu même quand les armées sont derrière lui et la mer rouge est devant lui. Et il dit, sauve ton peuple, ouvre les yeux de ton peuple, fais ce que tu veux. Ce n'est pas la crainte, ça. C'est la foi. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Ça, c'est mentionné dans Exode chapitre 12, versets 21 à 23. Je ne vais pas passer plus de temps sur cette question à ce moment. Ensuite, Israël, verset 29. Israël, le seul cas de foi nationale est mentionné ici. Exode chapitre 14, versets 21 à 31. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ensuite, versets 30 et 31, la conquête de Canaan. La foi qui est mentionnée dans verset 30, qui était liée à la destruction de Jéricho, n'est pas attribuée à une personne en particulier. Mais ça doit être la foi de Josué, des prêtres et même le peuple qui ont marché autour de la ville à travers toute une semaine. Josué chapitre 6, verset 2 à verset 5. Encore, croire dans la parole de Dieu et agir en conséquence. Donc, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait de tour pendant 7 jours. Verset 31, Rahab, une autre femme après Sarah. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Apparemment, elle croyait que l'annonce des Juifs reflétait en réalité la parole de Dieu. Et malgré le fait qu'elle était prostituée, elle a agi en accord avec cette révélation. Donc, elle avait, dans ce sens, une vraie foi. Ensuite, la période des juges, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Dans chaque cas, vous savez à quel passage de l'Ancien Testament le passage fait référence, n'est-ce pas? Je vous donne quelques instants. Gédéon, juge 6 à 8, Barak, juge 4 et 5, Samson, juge 13 à 16, Jephthé, juge 11, 1 à 12, 7. Notez bien, ce n'est pas la série historique. La série, c'est B, A, D, C, du point de vue historique. Je n'ai aucune idée pourquoi. Et ensuite, David, c'est assez clair encore. Et ensuite, il y a une division, en effet, entre ceux qui sont victorieux et ceux qui sont victimes. Ceux qui sont victorieux, 33 à 35a. 33, vainquir des royaumes, David par exemple, exercer la justice, 1 Samuel 12, 3 et 4, obtenir des promesses, peut-être David, 2 Samuel chapitre 7, que nous avons déjà examiné. Fermer la gueule des lions, Samson, juge 14, David, 1 Samuel 7, Benaïa, 2 Samuel 23, Daniel, Daniel 6. Éteindre la puissance du feu, probablement les trois copains de Daniel, Daniel 3, 10 à 27. Échappèrent au tranchant de l'épée, probablement Élisée à Dothan, 2 Rois chapitre 6, peut-être Baruch et Jérémie, Jérémie 36. Reprirent des forces après avoir été malades. Qui? Ézéchias, par exemple, 2 Rois chapitre 20. Et à la fin, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. C'est même possible que ces passages font référence à la guerre maccabéenne. Ce n'est pas certain. 35a, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. La veuve, dans 1 Rois chapitre 17. La Shunammite, dans 2 Rois chapitre 4. Dans chaque cas, nous pouvons trouver la personne qui est en vue, n'est-ce pas? Et ensuite, les victimes, 35b à 38. Ça doit nous encourager. La foi n'est pas tout simplement la prérogative, le privilège des victorieux, mais aussi des victimes. Ça prend la foi pour continuer quand il y a le danger de souffrance, de meurtre, devenir martyr. 35b, peut-être 2 Maccabées 6, 18 à 7, 42. Verset 36, vous devez examiner 1 Roi 22, Jérémie 32. Verset 37, furent lapidés, mis à l'épreuve, lapidés, Zacharie 2 Chroniques 24. Scier. Il n'y a pas un passage dans l'Ancien Testament qui nous donne cela, mais selon la tradition juive, assez ancienne, le prophète Ésaïe, à la fin de sa vie, a fui dans le bois. Il s'est caché dans un arbre. Il voulait échapper l'armée de Manassé. Et les soldats l'ont trouvé, l'ont entouré d'une corde, et ensuite ont scié l'arbre. Probablement, ce passage fait référence au prophète Ésaïe, et ainsi de suite. Donc, la fin, verset 39 et verset 40. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Voilà le point. La foi attend. La foi accepte la parole de Dieu et persévère. Nous avons reçu beaucoup plus qu'eux, mais nous aussi nous devons attendre, n'est-ce pas? Nous devons attendre la consommation. Nous devons attendre encore la culmination de toutes choses, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Nous attendons. L'eschatologie est inaugurée, l'eschatologie est encore future. Nous attendons. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection.